Les enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Aujourd'hui, les Philippines, nouvelle tête de pont de l'État islamique.
Oui, c'est donc la guerre totale contre Abu Sayyaf. C'est la déclaration hier du président Duterte au sujet de ce groupe armé responsable de l'attentat qui a tué 18 personnes dans une cathédrale dimanche sur l'île de Jolo aux Philippines. Le processus de paix avec les guérillas musulmanes historiques démarrait à peine dans le sud de l'archipel. Il pourrait donc être fragilisé par la poussée de l'État islamique en Asie du Sud-Est. On voit ça avec vous, Yves Bocquet. Okay, bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être au téléphone. Vous êtes professeur de géographie à l'Université de Bourgogne, auteur de L'archipel philippin. C'est paru chez Stringer en 2017. Alors, cette île de Jolo, qui est toute petite, deux fois la Barbade, elle est désormais cernée par la marine, sa population évacuée en partie, des frappes aériennes hier. Alors, il y avait déjà eu une attaque contre des militaires en juillet, mais là, c'est vrai qu'on a une montée en tension rapide et sans précédent depuis quasiment un an et demi, non ?
Oui, c'est une région qui est très troublée depuis pas mal d'années. L'an dernier, il ne faut pas oublier qu'il y a une ville dans une autre province du sud des Philippines qui avait été envahie par l'État islamique, un petit peu comme ce qu'on avait vu en Irak. Il avait fallu 6 mois à l'État philippin pour reprendre le contrôle de cette ville de Marawi, qui était la plus grande ville musulmane du sud-ouest des Philippines.
Oui, effectivement, c'était sur la grande île de Mindanao, juste à côté.
Voilà, c'est ça.
Et alors là, juste un mot sur la réponse des autorités. C'est vrai que cet attentat en pleine messe contre une cathédrale, dont je le disais, a tué 18 personnes. Mais là, on a une guerre en réponse à un attentat. Est-ce que c'est proportionné ou est-ce que c'est un message ?
Ben disons, pour le président philippin, qui est lui-même originaire de Mindanao, ce qui est le premier qui vient de cette île, était apparu comme un président qui pouvait régler la question très ancienne de l'irrédentisme musulman dans le sud des Philippines. Et là, pour lui, c'est un gros échec, parce qu'il y a une loi qui est en train d'être passée pour modifier, donner plus d'autonomie à la région musulmane. Et là, pour lui, c'est une insulte permanente. Lui, il le prend un petit peu comme ça. Il a fait des efforts pour aboutir à la paix, et puis on lui casse ses efforts de paix avec un attentat.
Oui, d'où la rhétorique, on pourrait dire, jusqu'au boutiste.
Ce qui correspond aussi au personnage, qui est un personnage très extrême dans ses propos.
Oui. Alors, justement, on va essayer de voir dans le détail qu'est-ce que ça représente, l'ampleur de ce camouflet, comme a dit la presse. Donc, l'attaque attribuée au groupe Abu Sayyaf, qui lui-même est affilié depuis 2014 à l'État islamique. Les autorités philippines ont même cité une dissidence d'Abu Sayyaf, un groupe qui s'appelle Adjang Adjang, quelques dizaines de personnes. Qu'est-ce qu'on sait de ce groupe ?
Alors, ce groupe, on n'en sait pas grand-chose, mais on sait que le groupe Abu Sayyaf, dont a été largement décimé l'an dernier à l'occasion de la bataille sur la ville de Marawi, donc le chef d'Abu Sayyaf aux Philippines a été tué, et puis ce groupe essaie de se reconstituer. Il y avait un autre petit groupe qui a été décimé aussi, qui était le groupe Marte, qui est deux frères et puis leur famille. Donc on a ces petits groupes qui sont dissidents d'autres groupes rebelles, en fait, aux Philippines. Ce qui est très compliqué, c'est qu'il y a plusieurs groupes musulmans. Il y avait le Front National de Libération Moro, c'est le terme générique pour les musulmans, dont s'est séparé ensuite le MILF, le mouvement islamique. Puis on a eu le groupe Abu Sayyaf, puis Adjang Adjang est un petit morceau d'Abu Sayyaf. Donc on a ces petits groupes qui sont dissidents d'autres groupes et qui sont souvent à base... d'une part, ces groupes sont à base tribale, et puis des petits groupes sont à base, en fait, de clans familiaux, qui sont un peu en rivalité pour reprendre le flambeau, reprendre la tête du mouvement Abu Sayyaf, qui a été quand même pas mal abîmé par l'an dernier.
Oui, ce qui fait en tout entre à peu près 5 et 7 groupes, selon qu'on prend les gros et les dissidences.
Voilà, il y a un autre groupe qui est le BIFF, le B-I-F-F, le Bangsamoro Islamic Front, qui est encore un autre groupe terroriste, qui parfois agit avec d'autres, parfois contre d'autres. Donc il y a des guerres internes. Alors une chose qui est très importante pour comprendre un petit peu ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi 3 grands groupes ethniques musulmans qui ont été regroupés, en fait, à l'époque de la colonisation américaine sous le terme générique de Moros. Mais on a les Taosug, on a les Maranao et on a les Manguindanao. Alors il y a un groupe, ce sont plutôt des agriculteurs, un autre groupe, ce sont des commerçants, et puis les Taosug, c'est un groupe qui est plus un groupe de navigateurs que les autres considèrent comme des pirates. C'est une région qui a une histoire de piraterie, avec aussi une géographie qui est faite de tout un tas de petites îles entre Bornéo, qui est indonésienne et malaise, et puis le sud des Philippines. Donc c'est il y a ces rivalités entre groupes. Le MILF est plus représente un groupe, le MNLF un autre groupe ethnique, et donc il y a ces rivalités ethniques qui sont très anciennes.
Et alors, est-ce que ça veut dire que selon les lieux, les luttes, les combats sont différents, plutôt territoriaux, idéologiques, que le sens des attaques est différent également? Encore une fois, pour ces deux groupes, il y avait un spécialiste philippin qui disait en voilà deux, Adjang Adjang et Anakyatin, qui signifie fils des guerriers et l'Office des Martyrs, qui sont des groupes de proches de personnes tuées par l'armée, un groupe qui agit par vengeance, c'est un peu ça, ou sur commande de l'EI?
C'est ce qu'a dit le président Duterte hier, c'est que à Jiangjiang, ils étaient là pour se venger de la mort de leur... Alors, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'apparemment, tout le monde n'est pas d'accord sur la façon dont s'est passé l'attentat. L'État islamique a dit que ce sont deux personnes qui se sont suicidées, attentat suicide. C'est une idée qu'a repris le président philippin en disant que c'était en fait un couple qui peut-être serait venu d'Indonésie et qui un homme et une femme. Et puis d'autres disent non, c'est pas ça. Les bombes, ça a été détonné, une détonation à partir d'un téléphone portable. Donc il n'y avait pas d'attentat suicide. Donc on a beaucoup de flou en ce moment sur comment s'est passé l'attentat.
Et alors qu'est-ce qu'on peut en déduire d'ici là sur le message, si je peux me dire ainsi, qui doit passer avec l'attentat? Est-ce que c'est une campagne de l'État islamique commandée d'en haut à un des groupes affiliés, ou est-ce que c'est un des groupes affiliés qui essaye de faire passer une revendication locale?
Bah, disons, ce qu'il faut remettre aussi en contexte, c'est le fait que la semaine dernière, toute la région a voté pour le changement administratif, plus d'autonomie.
Oui, un référendum le 21 janvier. Ouais.
Sauf la province de Sulu a voté contre. La province de Sulu, où se trouve l'île de Jolo. Hein, la province de Sulu représente plusieurs îles, et cette province a eu 54% de non. Les autres provinces ont voté à 94-96%. Pour la ratification de la nouvelle loi, mais cette province a voté contre. Et dans une des provinces qui a voté pour, qui a voté à 96%, la ville principale, Isabela, a voté contre à 54%. Donc ça peut être aussi une façon de dire, voilà, oui, vous voulez nous imposer cette mesure, même si on a voté contre, c'est l'ensemble de la région qui a voté pour, et donc on aurait cette nouvelle autonomie. Ça peut être une réponse aussi politique, hein, en disant nous n'acceptons pas le vote qui a été réalisé la semaine dernière.
Ouais, serait donc une...
Sachant qu'il y a un autre vote la semaine prochaine, dans les zones qui sont censées rejoindre la région administrative musulmane.
Et alors, ce vote globalement, là, il a quand même été approuvé à 85% sur les 2 800 000 votants.
Voilà, avec 88% de participation.
Est-ce que ça veut dire que à partir de là, avec ce problème de l'île de Jolo, la voie de l'autonomisation est remise en cause, puisqu'on devait avoir une nouvelle région musulmane, donc, enfin, à majorité musulmane.
C'est une région qui existait déjà depuis les années 80, mais dont on modifierait un petit peu les contours géographiques, et puis dans laquelle on donnerait plus d'autonomie à cette région, d'autant plus que le président Duterte avait proposé de transformer le pays en pays fédéral plutôt qu'un pays unitaire, hein, en disant bon, c'est toujours Manille qui commande et les provinces dépendent trop de Manille, donc ils voulaient donner plus d'autonomie aux provinces, mais là ils se retrouvent avec cette hyper-autonomie, avec des groupes qui veulent l'indépendance. Le mouvement islamique de libération voulait l'indépendance, alors ils sont prêts à avoir une autonomie plus accentuée. D'autres veulent rester sur l'indépendance. Donc on a ici des groupes musulmans qui ne s'entendent pas entre eux. Il y a des rivalités de personnes. Il y a un groupe qui a été un petit peu négligé. C'était le groupe historique, le MNLF, qui avait été négligé par les derniers présidents. Et donc qui éventuellement s'associerait avec des tout petits groupes terroristes pour essayer de faire capoter l'accord de paix qui profite plutôt aux MILF. Le mouvement islamique de libération.
Oui, le mouvement historique avec une guérilla de 30 000 personnes. Dernière chose, alors, Duterte, de ce point de vue-là, vous l'avez souligné, c'était le maire de Mindanao à l'époque, c'était le premier à intégrer des conseillers municipaux...
Le maire de Davao.
Premier à intégrer des conseillers municipaux musulmans. Est-ce que c'est, dans ce projet-là, le meilleur allié de la paix, ou alors, justement, de la guerre, parce qu'il veut absolument montrer qu'il est capable d'en finir avec la guérilla à Jolo?
Disons, il a une réputation d'homme fort qui va régler des problèmes, hein, comme il peut le faire pour la drogue en faisant exécuter des tas de trafic en drogue. Donc là, pour lui, c'est un camouflet, parce qu'il dit, moi je vais rétablir l'ordre, je suis de Mindanao, donc je connais les gens, je connais les problèmes, donc avec moi ça va bien se passer. Et là, bon, c'est un énorme échec pour lui.
Eh ben, écoutez, à suivre dans les prochains jours, en tout cas sur le plan militaire, pour voir s'il arrive à reprendre la main, et puis pour la suite du processus de paix. Donc, ce vote à venir, quel jour, la suite du référendum?
Le 6 février.
Le 6 février, c'est donc la semaine prochaine, dans quelques jours.
Voilà.
Merci beaucoup pour vos explications ce matin, Yves Bocquet. Je le rappelle, professeur de géographie à l'Université de Bourgogne et auteur, on renverra à votre livre, De l'archipel philippin, c'est édité chez Stringer en 2017. Merci.